À 10h07 sur France Inter, en raison de l'appel à la grève émanant de plusieurs organisations syndicales portant sur le projet de réforme des retraites dont on parlait tout à l'heure, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous proposons donc une rediffusion de Grand Bien vous fasse datant du 1er octobre 2018 avec Ali Rebeyi. C'est parti.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. À quoi sert le sommeil? C'est notre question du jour. Quelles sont ses fonctions essentielles? Pourquoi dort-on? À quoi ça sert de rester allongé 7 ou 8 heures dans les bras de Morphée? Quelles sont les graves conséquences pour la santé d'un manque chronique de sommeil? Pour votre serviteur qui dort habituellement comme un loir, une mauvaise nuit est synonyme de bonne humeur en berne, de capacités intellectuelles proches du QI d'une asperge, de bafouilles à l'antenne et d'une fatigue physique qui dure 2 ou 3 jours, voire plus. La vingtaine joyeusement débiteuse de sommeil n'étant plus qu'un lointain souvenir. Ne pas bien dormir peut donc nous gâcher la vie et nous mettre en danger avec l'apparition de pathologies comme l'hypertension, l'obésité ou le diabète de type 2. Mais comment expliquer que notre temps de sommeil en baisse continuelle ne soit pas notre bien le plus précieux, le pilier central de notre santé ? Bref, comment retrouver des nuits de sommeil réparateurs? Pour nous éclairer, le docteur Patrick Lemoine, le neuroscientifique Arnaud Rabat et le journaliste Marc Adergal. Ma complice aujourd'hui, Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebeyi.
Faut que je dorme, tu comprends, faut que je récupère, sinon je referai jamais surface. J'aurais sacrifié trop d'heures de sommeil.
Bah, on en est tous au même point, mon bon vieux. Moi aussi, j'ai du mal à dormir. Mais reconnais qu'on n'a pas été très raisonnable. Parce qu'une mousse au chocolat sur un rôti de porc, sincèrement, avoue que ça pèse.
Un extrait de Calmos de Bertrand Blier. À quoi sert le sommeil? Quelles sont les conséquences de la dette de sommeil sur notre santé physique et psychique? Comment retrouver un sommeil réparateur? On essaie d'y voir plus clair avec nos invités. Alors dans le Robert, le sommeil, c'est l'état d'une personne qui dort, caractérisé par la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions. Et Cervantes nous dit « Béni soit celui qui inventa le sommeil ». Patrick Lemoine, vous êtes psychiatre, spécialiste du sommeil. Béni soit celui qui inventa le sommeil.
Ah certes, parce que grâce à celui qui a inventé le sommeil, on vit plus vieux. Parce que bien dormir, c'est la garantie de vivre nettement plus vieux, sans perdre la mémoire, style Alzheimer, sans avoir de cancer, style cancer digestif ou cancer du sein, sans avoir de problèmes immunitaires, sans diabète et sans obésité. Donc, et puis surtout, ça permet de trier, de consolider tous les souvenirs, de détoxiquer le cerveau. Enfin bref, ça sert à plein de trucs, le sommeil.
C'est quoi un bon sommeil pour vous?
Un bon sommeil, c'est quand on se sent en forme le matin et que ça dure pendant toute la journée.
Arnaud Rabat, je rappelle que vous êtes docteur en neurosciences, spécialiste des effets cérébraux, de la somnolence et de la fatigue à l'Institut de recherche biomédicale des armées. Quelles sont les grandes phases du sommeil quand on dort 7 ou 8 heures? Alors, quand on est un adulte.
Oui, alors il y a trois grandes phases de sommeil. Il y a ce qu'on appelle le sommeil lent léger, qui est donc les premiers stades de sommeil. Le sommeil lent profond, où là c'est plus difficile de pouvoir être éveillé, et le sommeil paradoxal.
Et notre sommeil, c'est un rythme biologique. Nous sommes soumis à une horloge interne.
Oui, on a tous une horloge interne qui nous permet justement de consolider cette phase de sommeil. Nous sommes des animaux diurnes et nous dormons la nuit.
Alors Patrick Lemoine, nous avons tous expérimenté ce que ça fait de passer une nuit blanche ou de ne dormir que 2 ou 3 heures. C'est quoi les conséquences d'une nuit blanche? Alors, très direct, sur la journée.
Très souvent, la journée qui suit, on a une pêche d'enfer. On est extrêmement émotif et puis on a des coups de pompe pas possibles. C'est plutôt stimulant la privation de sommeil le premier jour.
Ça va à l'encontre d'une idée reçue.
Oui, ça va à l'encontre d'une idée reçue, mais la plupart du temps. Alors je parle pas des personnes malades, des personnes âgées, des personnes déprimées, que ça peut guérir leur dépression. Et c'est connu depuis toujours qu'une nuit blanche chez un déprimé peut le sortir d'un seul coup. Alors je le conseille pas parce que ça doit se faire dans des milieux protégés, c'est encore un peu à l'état de recherche. Mais il faut savoir que la privation de sommeil, c'est un antidépresseur extrêmement puissant, que dormir trop longtemps et surtout trop tard peut déclencher des dépressions.
Vous avez constaté une augmentation des consultations liées au sommeil ces 15-20 dernières années?
De toute façon, on dit toujours que les trois grandes causes de consultation, et le généraliste dans la salle ne me contredira pas, c'est la fatigue, l'insomnie et la douleur. J'ai envie de dire qu'avec ça, on n'a pas tout le champ de la médecine, mais quand même une bonne partie.
Baptiste Beaulieu, vous confirmez ?
Oui, je suis complètement d'accord. Puis les patients sont de plus en plus en demande de thérapie médicamenteuse, ce qui nous met toujours un peu dans l'embarras, parce qu'on sait combien ces thérapies-là sont addictives.
Alors Marc Adergal, vous avez réalisé le documentaire « Troubles du sommeil, la fin du cauchemar ». Vous avez été étonné de l'impact du mauvais sommeil sur notre santé physique et psychique ?
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une des raisons qui nous a poussé à vouloir faire ce film. Il y avait vraiment toute la place pour un film. D'une part parce que le sommeil commence juste à livrer ses secrets aux scientifiques, ses fonctions, les pathologies qui découlent d'un mauvais sommeil ou d'une privation de sommeil. Et effectivement, c'est impressionnant de voir les conséquences que peuvent avoir un mauvais sommeil sur, d'une part, les témoins que nous avons pu rencontrer, et puis aussi en consultant les experts que nous avons vus au niveau épidémiologique, le cancer, le diabète, l'hypertension, enfin c'est du lourd.
Patrick Lemoine, comment expliquer cette hypervigilance nocturne que nos ancêtres ne connaissaient pas jusqu'à peut-être l'invention de l'ampoule électrique en 1877 par Joseph Swan et déposée par Thomas Edison?
Absolument.
Patrick Lemoine.
Alors, c'est vrai que l'espèce humaine est la seule à avoir divorcé trois fois du soleil, qui est notre donneur de rythme. Le soleil, c'est ce qui nous synchronise. Première fois, on a inventé le feu, il y a presque un million d'années. Deuxième fois, on a inventé effectivement l'ampoule électrique. Et troisième fois, on a inventé l'écran. Trois divorces, ça fait quand même beaucoup. Et de ce fait, on se désynchronise. Mais contrairement à une idée reçue, on ne dort pas moins qu'avant, mais on dort moins bien. En point de vue temps, quand on parle avec les historiens, au 16e, au 18e, c'était très très comparable. Mais au niveau de la qualité, c'est plus du tout là. Alors une chose tout à fait brute de décoffrage, c'est que quand on regarde un écran le soir, donc la lumière bleue, on bloque la mélatonine, et dormir sans mélatonine, ça ne fera pas forcément une insomnie, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le sommeil sera de moins bonne qualité, beaucoup moins réparateur.
Arnaud Rabat, sur la question du sommeil, on assiste à un profond changement de civilisation avec l'avènement des écrans, smartphones, tablettes, jusque sous nos couettes.
Oui, parce que je pense qu'on a, comme disait le professeur Lemoine, on a oublié quelque chose d'essentiel, c'est que le temps du sommeil est un temps important qu'il faut préserver en fait. Et on a trop souvent amené dans la chambre à coucher, qui devait être un lieu sanctuarisé pour le sommeil, d'autres distracteurs comme les écrans, comme les ordinateurs, comme les téléphones, comme les animaux domestiques, éventuellement même des fois les enfants. Donc on a oublié un principe de base essentiel qui est qu'on doit préserver sa chambre à coucher pour le sommeil.
Il doit y avoir un conditionnement. Le lit, c'est fait pour s'aimer et pour dormir. Et rien d'autre.
Tout à fait.
Donc apporter à manger, regarder la télé, écouter la radio, même les bonnes radios comme ici. Alors ça peut être un rituel d'endormissement, écouter 5-10 minutes la radio pour se rendormir même la nuit, mais pas plus.
Marc Adergal.
Oui, alors il y a une double dimension et qui nous a frappé Claire Chaugnot, la co-réalisatrice, et moi-même, lors de la réalisation de ce film, c'est qu'il y a, la dimension pathologique. Il y a des gens qui souffrent d'apnée du sommeil, par exemple, de choses vraiment purement physiologiques et qui perturbent fortement leur vie diurne aussi. Il y a aussi une dimension sociétale qui est très forte, qui peut être liée à des activités qu'on choisit ou que la société nous propose. Donc là, c'est le divertissement numérique, typiquement avec les écrans et avec le retard induit. Ça peut être le travail aussi, avec des travailleurs postés ou des travailleurs nocturnes qui, eux, bouleversent complètement leur horloge biologique en travaillant de manière décalée.
Alors Patrick Lemoine, nous sommes nombreux à penser qu'il faut rentabiliser notre temps et ça passe par le temps de sommeil. Il faut savoir qu'on passe environ un tiers de notre vie à dormir. À 75 ans, on a passé 25 années à dormir.
C'est vrai, mais il faut comprendre que le sommeil, c'est pas une valeur d'ajustement du temps d'éveil et du temps de travail. Hein. Je parle beaucoup avec les chefs d'entreprise que je rencontre régulièrement et ils ont tendance, effectivement, quand ils ont un truc en retard dans leur boîte, à prendre la nuit. Et je leur explique que de toute façon, comme ils seront pas bons le lendemain, parce que même s'ils sont un peu stimulés, excités, émotifs, ils feront des tas d'erreurs. Donc prendre sur son sommeil, c'est un très mauvais calcul. C'est mathématiquement, arithmétiquement, ça marche pas.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Oui, je crois qu'il faut pas considérer le sommeil comme de la paresse. Et on le voit bien encore en France, où on considère par exemple la sieste comme quelque chose d'inutile, alors qu'on peut tout à fait récupérer et être beaucoup plus performant dans l'après-midi. D'ailleurs, certaines entreprises s'y mettent, on le voit bien dans le documentaire que vous avez fait.
Marc Adergal.
Oui, mais il y a effectivement encore le mythe qui avait déjà, à l'époque d'Edison, était lancé que le sommeil c'était de la paresse et que c'était de l'inefficacité par rapport à la production. Et on est encore dans ce mythe aujourd'hui. On a pas mal de chefs d'État qui se vante devant les caméras de dormir très peu.
Et... Pensez à qui?
Je vous laisse découvrir ça dans le film. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Donc il y a vraiment ce côté variable d'ajustement. Effectivement, le sommeil, c'est ce qu'on fait quand on a fini de faire tout le reste. Et ça, c'est une grosse erreur de calcul parce que ça nuit à la journée.
Arnaud Rabat.
Oui, je pense que il faut pas oublier que Hypnos, le dieu du sommeil, était frère jumeau de Thanatos. Donc on a tendance à considérer dans l'inconscient collectif que quand on dort, il ne se passe rien. Donc on peut renier cette période.
Patrick Lemoine.
Oui, enfin, il ne faut pas oublier aussi, et je suis tout à fait d'accord, que génétiquement, on est programmé pour dormir moyennement, comme la majorité des gens, c'est-à-dire entre 7 et 8 heures, c'est vraiment l'immense majorité, mais qu'il y a quand même des courts dormeurs génétiques et des longs dormeurs génétiques, et que le secret, c'est quand même de se connaître et de savoir combien de temps on a besoin. De même, il y a des sujets qui sont génétiquement du matin, donc pathologiquement ponctuels, comme votre serviteur, et puis des gens qui sont du soir, qui ont beaucoup de mal à arriver à l'heure, et ça, on n'y peut rien, c'est les gènes qui parlent.
Marc Adergal.
Oui, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a constaté aussi en rencontrant nos témoins dans le film. Il y a une injustice génétique, ou en tout cas des inégalités génétiques face au sommeil, et il y a un côté faut faire avec. Donc se connaître d'abord et faut faire avec ensuite.
Arnaud Rabat.
Oui, je pense que comme disait Socrate, connais-toi toi-même. Je pense que c'est un des principes de base qui est qu'à partir du moment où on se connaît, on est capable justement d'alimenter ses besoins et surtout de pouvoir s'adapter aux contraintes environnementales et professionnelles.
On peut profiter du week-end pour savoir si on est un petit ou un gros dormeur, Patrick Lemoine.
Oui, alors tout dépend encore si on est du matin ou du soir. Pour vous parler de moi, puisque je vous connais assez bien, moi je suis vraiment du matin et à 5h30, il y a une main invisible qui m'arrache de la couette. J'y peux rien, c'est comme ça. Et si j'ai le malheur en week-end de me lever à 6h, je suis dans le coltard toute la journée. En revanche, pour quelqu'un, on va dire, de moins extrémiste que moi, qui est ni du matin ni du soir, c'est comme la majorité, ou plutôt du matin, ou plutôt du soir, ou carrément du soir, la grasse mat du week-end est quand même une manière de récupérer, puisqu'il a été montré que effectivement en semaine, on dort plutôt une heure ou deux de moins qu'autrefois, mais qu'on rattrape ce temps au week-end, et puis bah, c'est quand même, ça peut être assez agréable, sauf pour les gens du matin.
Baptiste Beaulieu, petit ou gros dormeur?
Petit dormeur, mais j'ai une question parce que sur le plan évolutif, enfin, le sommeil paraît vraiment un non-sens parce que on est des animaux, c'est-à-dire qu'on est là pour se battre ou fuir, et d'un seul coup, il y a cet état d'hyper-vulnérabilité pendant 6 à 7 heures et on est à la merci du moindre prédateur, quoi.
Arnaud Rabat.
Faut pas oublier que le sommeil est un état réversible, c'est-à-dire que contrairement à certaines situations comme la dormance pour les végétaux ou comme l'hibernation pour les animaux, vous êtes capable assez rapidement de vous réveiller de cet état-là. Donc c'est l'avantage que confère le sommeil, c'est que vous avez la possibilité de vous isoler et de récupérer, mais aussi de pouvoir vous réveiller très rapidement.
D'accord. On parle de dormance pour les végétaux.
Oui, une situation pendant l'hiver où les végétaux se mettent en situation de dormance, c'est-à-dire une inactivité complète qui reprend au moment du printemps, au moment de tous les changements
ça me plaît bien,
environnementaux.
Ça. Patrick Lemoine.
D'ailleurs, si vous avez des nénuphars dans votre jardin, vous verrez que la nuit, ils ferment leur corolle. Donc les végétaux ont une espèce de forme de repos et de sommeil.
Marc Adergal.
Une des premières découvertes par rapport à la chronobiologie a été faite avec une plante justement, avec Mimosa pudica.
Absolument.
Qui se ferme et qui se rouvre sur un cycle.
Mimosa pudica, quel beau nom. Aline Perraudin de Santé Magazine.
Je trouve que quand même l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non mais on le dit encore, donc il y a une injustice quand même, comme le disait...
C'est une idée reçue ça ou pas? Tiens,
Non, c'est pas une idée reçue. En fait, comme le disait le professeur Lemoine, comme vous avez différents chronotypes, vous avez des gens extrêmement du soir, des gens extrêmement du matin, et on s'est rendu compte, ça c'est des travaux du professeur Ronneberg, que les gens qui subissent le plus le manque de sommeil en semaine, ce sont les gens du soir, parce que globalement, la société impose des horaires qui correspondent mieux aux personnes du matin. Donc on se rend compte que la dette de sommeil est beaucoup plus forte pour les gens du soir, et notamment pour les jeunes, qui sont des chronotypes extrêmement du soir.
Enfin, il y a des différences culturelles. Moi qui suis un provincial, je sais que les Parisiens ont un retard de phase, c'est-à-dire qu'ils se couchent à 23h minuit et arrivent au boulot à 10h. Moi, depuis mon hôpital, quand j'appelle un autre hôpital, si c'est en province, c'est 8h, 8h30. Si c'est à Paris, c'est 10h, 10h30.
On n'arrive pas tous à 10h au boulot à Paris.
Parce qu'il y a des malheureux.
Parce qu'il y a une variable importante, c'est le temps de transport. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans les grandes agglomérations, le temps de trajet était un temps qui, du coup, était rogné sur le temps de sommeil.
À quoi sert le sommeil? C'est la question posée à nos invités, Patrick Lemoine, Arnaud Rabat et Marc Adergal.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision. tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusques en haut des cuisses, elle est beautée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guerlain dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.
Gainsbourg, Initials Baby.
Comment ça va ?
Fatigué, j'ai envie de dormir.
Grand bien vous fasse.
Et je crois que ça nous ferait beaucoup, beaucoup de bien.
Sur France Inter.
À quoi sert le sommeil ? C'est la question posée à nos invités Patrick Lemoine, Arnaud Rabat et Marc Adergal.
Surexposé à la lumière des villes et des écrans, notre horloge biologique s'est déréglée. Et notre temps de sommeil ne cesse de diminuer.
La population des pays occidentaux a perdu au moins une heure de sommeil par 24 heures. Ça veut dire donc à peu près une cinquantaine de nuits par an.
Insomnie, apnée du sommeil, horaires décalés, les mauvais dormeurs mettent leur santé en danger.
Notre société joue avec le feu et avec la santé des individus.
Ne pas dormir assez altère l'espérance de vie.
Un extrait du documentaire « Troubles du sommeil, la fin du cauchemar » co-réalisé par Marc Adergal. Docteur Patrick Lemoine, la première fonction du sommeil, c'est la restauration de notre organisme et de notre psychisme ?
Oui, absolument. On dit d'ailleurs que le sommeil est réparateur, et je pense que le terme est tout à fait adapté.
Quel est le mécanisme ? Alors, quel est le lien, par exemple, entre le sommeil lent profond et la restauration de l'organisme ?
Alors, bon, c'est vrai que la totalité de l'hormone de croissance, qui est donc quelque chose qui restaure les tissus, est fabriquée pendant le sommeil profond, c'est-à-dire au cours, chez l'adulte, des 3 premières heures de sommeil et des 2 premiers cycles. Chez les enfants, c'est beaucoup plus. C'est pour ça que nos grands-mères avaient raison de dire que les enfants grandissent en dormant.
Arnaud Rabat.
Et ce qu'on sait aussi, c'est que pendant le sommeil en lente, vous refaites les stocks d'énergie. C'est-à-dire que la seule source d'énergie de l'organisme, c'est l'ATP. Et en fait, on multiplie par 3 ou par 4 les stocks d'ATP pendant le sommeil lent profond.
C'est quoi l'ATP ?
L'adénosine triphosphate. Donc en fait, c'est une ressource énergétique unique pour l'organisme, donc le seul moyen pour l'organisme de pouvoir fonctionner.
Et le sommeil sert à entretenir les défenses immunitaires de l'organisme ?
Également, oui.
De quelle façon ?
Eh ben, en fait, on s'est rendu compte que pendant le sommeil lent profond, il y avait un dialogue qui s'instaurait justement entre les antigènes, les anticorps et les lymphocytes, donc en fait les gardiens de l'organisme, et que les réponses immunitaires étaient d'autant mieux apprises que des périodes de sommeil étaient, on va dire, insérées pendant les les périodes de vaccination.
On est plus sensible au virus quand on dort mal, quand on est en état d'insomnie chronique, Patrick Lemoine.
Clairement, les personnes qui sont soit insomniaques, soit en privation de sommeil pour des raisons X, non seulement ont plus d'infections, mais au niveau immunitaire, ça a été montré par exemple chez les femmes qui travaillent de nuit, il y a un plus gros risque de cancer du sein. Et pour les hommes et les femmes, il y a un plus gros risque de cancer digestif. Donc je ne veux pas affoler dans les chaumières, mais je pense que le travail de nuit ne devrait pas être toute la vie.
Tiens, justement, bonjour Natacha.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission.
Merci.
Vous appelez d'où, Natacha ?
Je vous appelle de Toulouse. Hein.
Bienvenue. Alors vous travaillez de nuit, hein ?
Oui, moi je travaille de nuit, oui, tout à fait. Je suis aide médico-psychologique, donc j'accompagne des personnes en situation de handicap physique ou psychique. Mmh. Et je suis passée de nuit depuis un an.
Et qu'est-ce que vous avez constaté sur votre santé ?
Alors, sur le départ, j'avais beaucoup d'énergie et je trouvais ça fabuleux, même si j'avais des difficultés à m'endormir. Et très rapidement, j'ai pu constater une prise de poids, des difficultés avec l'appétit, où je me suis mise à grignoter, à manger beaucoup plus et beaucoup plus mal. Et puis au final, on se retrouve sur un rythme qui socialement est pas très positif.
Patrick Lemoine, sur le témoignage de Natacha.
Oui, alors sur la question du poids, elle a totalement raison, parce que c'est au cours de la nuit qu'on fabrique une hormone qui s'appelle la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Et donc si on n'a pas assez de leptine, on ressent pas la satiété, on a tout le temps faim et on grignote, et elle le dit très bien.
Il y a une autre hormone importante également qu'on sécrète la nuit, c'est la gréline.
Oui,
c'est ça. Arnaud Rabat, c'est l'hormone de
la faim.
De la faim.
Et en fait, on se rend compte, comme le dit le professeur Lemoine, qu'avec le manque de sommeil, on va déséquilibrer le rapport entre gréline et leptine au profit de la gréline. Ce qui explique pourquoi on a une sensation de faim plus importante.
Marc Adergal, vous avez rencontré Hélène hein, dans votre documentaire, infirmière en maison de retraite, en horaire décalé.
Oui, en horaire de nuit même. Et son témoignage rejoint beaucoup ce qu'on vient d'entendre de la part de Natacha, c'est-à-dire qu'elle a pris du poids, elle a pris pas mal de poids en 10 ans de travail de nuit. Elle a déréglé, elle se pose actuellement des grosses questions par rapport à la compatibilité physiologique qu'elle a ou pas avec le travail de nuit. Du fait des conséquences à la fois sur son sommeil, sur son équilibre physiologique, sur son état de la journée. Et ça vient souvent d'un choix, j'ai l'impression, de vouloir pouvoir faire tout. Alors un choix contraint, forcément, il faut bien travailler. Mais de vouloir, par exemple, être auprès des enfants le jour, sans vouloir sacrifier pour autant sa carrière. Du coup, on fait cette espèce de choix, mais qui n'en est pas un. Voilà.
Natacha, est-ce que vous songez à changer quand même de rythme de vie ? Est-ce que c'est possible d'ailleurs ?
Oui, tout à fait. On est dans une situation, nous, de métier où il y a beaucoup de demandes. Donc, on est sur un domaine de plein emploi. Et là, j'ai décidé d'arrêter le travail de nuit et de revenir sur un travail de jour.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Natacha, Patrick Lemoine, pour faire une bonne transition ?
Alors, déjà, heureusement, Natacha ne semble pas avoir de gène de vulnérabilité au diabète, parce qu'on a parlé d'hormones, mais l'insuline, la nuit, si on ne dort pas bien, on développe des résistances à l'insuline et des effondrements de l'insuline. Donc c'est vraiment très important. Si on est à risque de diabète, ce n'est pas une bonne idée de travailler de nuit. Alors, la transition...
Ce n'est pas une bonne idée, parfois on n'a pas le choix. Hein.
Certes, mais quand même, il y a une législation qui protège les femmes, en particulier. Contre le travail de nuit ou à propos du travail de nuit, et on le sait pas assez, ça. Mais quoi qu'on fasse, de toute façon, même si on a une hygiène des rythmes formidable, si on fait tout ce qu'il faut, on a forcément ou au minimum une heure de déficit de sommeil quand on travaille de nuit.
Merci beaucoup Natacha de nous avoir appelé. Laure sur notre page Facebook nous dit « J'ai 36 ans, je suis infirmière. Plus tôt du matin, j'ai pourtant travaillé souvent de nuit. J'ai dû quitter mon activité à l'hôpital pour des problèmes de santé. Depuis, j'ai une spondylarthrite ankylosante doublée d'une fatigue chronique invalidante. Des études montrent donc que le travail de nuit augmente très fortement les risques de développer certaines formes de cancer. Je pense aux recherches du docteur Michael Irvin, chercheur à l'Université de Californie à Los Angeles. Plusieurs de ses études révèlent qu'un manque de sommeil sur de très courtes durées affectait très rapidement et totalement les cellules immunitaires destinées à lutter contre le cancer. Arnaud Rabat.
Oui, tout à fait.
Confirmé.
On confirme que ce sont des études tout à fait sérieuses et effectivement le problème en fait c'est ce qu'on appelle la dette de sommeil. C'est-à-dire que souvent, on a parlé tout à l'heure des formes extrêmes de privation totale de sommeil, mais souvent ce qui arrive c'est la dette de sommeil. C'est-à-dire qu'on accumule une dette, c'est-à-dire qu'on ne dort pas le temps dont on a besoin et souvent ça s'accumule sur plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années et ce sont ces effets-là silencieux qui se révèle après plusieurs années sous la forme de cancer, sous la forme de pathologies cardiovasculaires ou de problèmes immunitaires ou de fatigue chronique.
C'est le problème, c'est que la dette de sommeil, c'est comme la dette de notre pays, c'est-à-dire on la rembourse jamais et on finit par la payer assez cher.
Marc Adergal, pour les besoins de votre documentaire, vous avez rencontré le professeur Dirk van Dijk du centre de recherche clinique du Surrey au Royaume-Uni. Racontez-nous ces recherches sur 26 dormeurs sains qui ont dormi moins de 6 heures pendant une semaine.
Alors il y a eu un protocole où effectivement ils ont fait dormir 26 dormeurs sains tout d'abord moins de 6 heures par nuit et puis ils ont fait des prélèvements sanguins et puis ensuite ils les ont fait dormir normalement, c'est-à-dire je crois de l'ordre de 8 heures par nuit, et ils ont fait à nouveau des prélèvements sanguins, ils ont comparé. L'idée derrière c'était de voir s'il y avait des répercussions des courtes nuits au niveau des gènes. Et ils ont fait une découverte assez sidérante qui est que dormir moins de 6 heures par nuit affecte 711 gènes chez l'humain.
Impliqués dans le contrôle du système immunitaire et du métabolisme.
Tout à fait, entre autres. Ainsi que dans l'horloge biologique, enfin... Et donc il y a énormément de répercussions. Ils ont été assez frappés de voir qu'à à échéance aussi brève, dès les premières nuits, en fait, on pouvait constater qu'il y avait un impact fort.
Docteur Patrick Lemoine.
Oui, il y a eu une étude comparable, beaucoup plus ancienne, où ils avaient pris une trentaine de sujets sains qui avaient dormi moins de 5 heures pendant 15 jours. Ils étaient prédiabétiques, c'est-à-dire avec un effondrement de l'insuline et une résistance à l'insuline. Et si parmi eux, il y avait eu, alors je pense qu'ils avaient fait attention, des gens qui avaient un gène de vulnérabilité, c'est un vrai risque.
Pourquoi le manque de sommeil entraîne des problèmes cardiovasculaires, Arnaud Rabat ?
Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des modifications au niveau des mécanismes de régulation des vaisseaux sanguins et aussi des régulations, comme on disait tout à l'heure, au niveau hormonal, qui peuvent expliquer en fait que ça va aller dans le sens justement d'un risque au niveau cardiovasculaire.
Un mauvais sommeil, mauvais cœur, donc, Patrick Lemoine.
Oui, puis j'ai envie de dire plus simplement, la nuit, tout s'apaise, le stress s'apaise, la tension artérielle s'apaise. Et on a vraiment le sentiment qu'à force de mal dormir ou de dormir en étant anxieux ou déprimé, eh bien, les taux d'hormones du stress, style cortisol, restent élevés. La tension artérielle reste élevée la nuit et que finalement, cette tension artérielle reste élevée tout le temps. Donc, effectivement, le risque d'AVC, d'infarctus et de soucis cardiovasculaires est plus élevé chez les gens qui dorment pas assez.
Pourquoi le manque de sommeil entraîne des troubles cognitifs et psychologiques à moyen et long terme, Arnaud Rabat ?
Alors ça s'explique par le fait que quand vous êtes en manque de sommeil, vous luttez. C'est un processus dynamique. Et donc en fait, vous luttez pour rester éveillé et cette lutte consomme de l'énergie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à certains moments, votre contrôle vous échappe et du coup, ça crée ce que l'on appelle des absences. Que les anglais appellent des laps, en fait, et qui se traduisent par le fait que vous êtes inattentif, que vous avez du mal à mémoriser, que vous avez des troubles au niveau de la mémoire de travail, des processus exécutifs, que vous avez du mal à inhiber des réponses que vous feriez spontanément. Donc vous avez tendance plutôt à agir, on va dire, comme un robot avec des automatismes, et c'est ce qu'on constate dans les formes extrêmes pour la privation totale de sommeil, mais aussi pour la restriction, puisque ça, c'est une étude qui avait été menée il y a une quinzaine d'années, qui montrait que dormir moins de 4 heures sur une semaine correspondait à des niveaux de dégradation équivalents à une nuit blanche. Et vous aviez la même chose sur 2 semaines pour 6 heures de sommeil par nuit.
Docteur Patrick Lemoine.
Oui, c'est au cours du sommeil, notamment du sommeil paradoxal, qu'on sélectionne les souvenirs pertinents. Ce qui veut dire que quand on rêve, on vire 99,99% des choses qu'on vit dans la journée, à savoir combien j'avais de petits pois dans mon assiette. C'est pas forcément intéressant de m'en souvenir. Et puis, au contraire, je vais sélectionner ce qui est pertinent et ensuite je vais le consolider. Et on comprend bien que si on dort pas assez, ce processus est perturbé et que la mémoire s'en ressent très fortement.
Donc, mal dormir, si je vous comprends bien, souffrir d'insomnie chronique, c'est raccourcir son espérance de vie?
Oui. Alors là, c'est des découvertes plus récentes qui, c'est un peu technique ce que je vais dire, mais sur nos chromosomes, l'extrémité, ça s'appelle un télomère. Et on sait que de l'état de ce télomère dépend le nombre d'années qui nous reste à vivre. Et on a un enzyme qui s'appelle la télomérase qui restaure en permanence ces télomères qui représentent notre espérance de vie. Il est bien montré que si le sommeil est perturbé, cette télomérase reconstructrice va être perturbée et que de ce fait, on vit moins vieux quand on dort pas assez mais aussi quand on dort trop.
J'aimerais citer le docteur Matthew Walker qui martèle que le sommeil devrait être le pilier central de la santé, je le cite, comme l'eau jaillissant d'une canalisation brisée, les effets d'une privation de sommeil s'infiltrent dans les moindres recoins de votre corps, jusque dans vos cellules, allant jusqu'à altérer le plus essentiel de votre être, votre ADN. Arnaud Rabat.
Oui, tout à fait, on se rend compte que les effets physiologiques du manque de sommeil sont pas uniquement au niveau de l'organisme ou de ce qu'on est capable de faire, mais que ça vient modifier jusqu'à l'ADN et de l'intérieur de la cellule.
Baptiste Beaulieu, question.
Une question toute bête. Si on prend quelqu'un qu'on met dans une grotte, c'est-à-dire sans soleil, sans les rythmes biologiques lumineux, est-ce que son temps de sommeil est identique au nôtre?
Oui, c'est juste qu'il va passer une journée de plus de 24 heures. C'est-à-dire ça, c'est des études qui avaient été faites par Michel Siff dans les années 60, où en fait, il vivait avec une journée de plus de 24 heures. Parce qu'en fait, notre rythme naturel est supérieur à 24 heures, et le soleil nous resynchronise sur le nyctémère, c'est-à-dire sur l'alternance jour-nuit.
Oui, Michel Siff était un ami qui a passé des mois hors du rythme social et hors de l'alternance lumière-obscurité. Et lui dit que la bonne adaptation, c'est de se mettre en rythme non pas circadien de 24 heures, mais de circabidien, ce qui veut dire de 48 heures. Donc les personnes vivent avec des nuits de 14 heures. Quand ils disent « je vais faire une sieste de 2 heures », ils dorment 4 heures. Et le plus extraordinaire, c'est qu'un fumeur d'un paquet de cigarettes par jour va fumer un paquet de cigarettes par 48 heures. Donc je ne veux peut-être pas conseiller d'aller dans une grotte pour les fumeurs, mais toute la perception du temps est divisée par deux, voire par trois.
Baptiste Oblu, vous aviez une question à antenne là, très intéressante.
Oui, une question. Il y a des légendes urbaines qui courent. Est-ce qu'on peut vraiment mourir si on vous prive de sommeil?
Alors, tout dépend si elle est volontaire ou non. Dans les pays ex-totalitaires de l'Est, on torturait les gens en les empêchant de dormir. Ils n'étaient pas d'accord. Très rapidement, ils avaient des hallucinations, notamment au niveau de la peau du crâne, avec l'impression d'avoir des poux, des parasites. Et ils mouraient, effectivement, d'ulcères, de stress et de choses comme ça. Si, comme un jeune homme, il y a une trentaine d'années, à San Diego, on veut être inscrit au Guinness Book et qu'on fait une privation de sommeil, il est arrivé à 11 jours, 11 nuits sans dormir, ce qu'on ne recommande pas. Et certes, il a eu des hallucinations, il était un peu parano, mais au bout de deux nuits de récupération, il était impeccable. Donc ce qui rend malade, c'est le stress, avant tout. Et la plus belle étude, c'est quand on privait de sommeil paradoxal les rats, ils mouraient très vite. Donc tous les psychanalystes et autres oniromanciens disaient « Génial, le sommeil, c'est indispensable à la vie. » Jusqu'au jour où on les a privés de ce sommeil paradoxal chimiquement, et les rats se portaient très bien. Et j'ai plein de patients qui prennent un antidépresseur qui s'appelle Imao, qui n'ont plus du tout de sommeil paradoxal, qui ne rêvent plus, ils vont très bien.
Question de Julien sur notre page Facebook. Est-ce que le sommeil a des incidences sur les maladies de la peau, comme l'eczéma? Qu'est-ce qu'on sait, Arnaud Rabat?
Alors là, personnellement, je ne sais pas.
C'est Patrick Lemoine,
mon domaine. J'ai envie de presque botter en touche. On sait que à partir du moment où on dort pas bien, on est beaucoup plus stressé, que l'eczéma, le rhume des foins, l'ulcère, toutes ces maladies dites psychosomatiques sont liées à l'état de stress. Donc forcément, en tout cas, il y a une chose dont je suis certain, absolument certain, c'est que moi, quand je vois un patient, je sais tout de suite s'il a bien dormi ou non, uniquement avec l'état de sa peau.
À quoi vous le voyez, tiens?
Parce que sa peau est beaucoup plus belle que quand il a bien dormi depuis 15 jours, il rajeunit de 10 ans, parce que les rides s'estompent. Je pense que pour ma voisine de Santé Magazine, le plus beau de tous les conseils beauté qu'on peut donner aux personnes, c'est dormez bien, vous serez beaucoup plus
ne
belle.
Ne soyez pas sexiste, ça n'intéresse pas Caline Perraudin, ça intéresse aussi Baptiste Beaulieu, moi-même.
Allez, vous êtes beau naturellement.
Oh là là, quel vil flatteur. À quoi sert le sommeil? C'est la question posée à nos invités, Patrick Lemoine, Arnaud Rabat et Marc Adergal. I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees.
in gray clouds or white walls or blue skies. We gon' fly, feel alright. We gon'
Black Puma, interprété Colors.
Alors, si je me réveille à 7h et que je m'endors maintenant, ça me fait 8h de sommeil. C'est parfait, 8h, c'est ce qu'il faut.
Grand bien vous fasse.
Allez, si je m'endors maintenant, ça me fait 5h de sommeil. C'est pas trop mal, 5h.
Ali Rebéi.
Bon, si je m'endors maintenant, ça me fait 2 minutes de sommeil. Donc je suis mort.
Sur France Inter.
Quand je vais me coucher et que les dispositions sont bonnes, le sommeil arrive assez souvent. Mais en fait, c'est léger et tout d'un coup, l'inconscient ou voilà me rappelle. Et là, je sais que c'est foutu. Et là, oui, là, je vais commencer à gamberger, à me dire bon, faut que je dorme. Et c'est ce qu'il ne faut pas, c'est ce qu'il faut pas, évidemment. Et on a beau essayer de respirer, le cerveau cogite, évidemment. La peur de ne pas s'endormir. Bah, si je ne dors pas, je perds du temps. Si je ne dors pas, demain, ça va être dur. Je sais que beaucoup de gens qui sont insomniaques passe par des phases de tristesse, de dépression, parce que ça influe sur l'humeur, parce qu'il faut accepter qu'on soit plus comme avant. Moi, je trouve que voilà, je ne suis pas aussi énergique, je ne suis pas aussi alerte, je ne suis pas aussi... Enfin, je ne suis pas la même personne. Il faut accepter ça. C'est une forme de handicap et chronique, une chronicisation de quelque chose. Il faut s'en rendre compte, il faut l'accepter, il faut s'appuyer sur d'autres choses.
L'extrait du documentaire Trouble du sommeil, la fin du cauchemar, réalisé par Marc Cadergal. Beaucoup, beaucoup de questions sur les effets du manque du sommeil chez les enfants et les adolescents, sur leurs résultats scolaires, évidemment, sur leur santé en général. Docteur Patrick Lemoine.
Oui, et c'est vrai que ce documentaire, il est vraiment regardé, il est formidable. Et tout ce qu'il dit est parfaitement vrai. J'insiste là-dessus. Mais c'est pas parce que j'y ai participé. Simplement, pour les adolescents et les enfants, en effet, déjà les adolescents ont une tendance normale, physiologique, à se mettre en retard de phase, c'est-à-dire à s'endormir plus tard et à se réveiller plus tard. Et en week-end, c'est une catastrophe quand toute la famille est en train de manger son gigot, faillot autour de la table et que l'ado arrive mal rasé à midi pour prendre son petit déjeuner. C'est énervant, mais c'est normal. Mais c'est aggravé par les écrans, parce qu'effectivement, c'est très important quand on a 15 ans de pas louper à 2h du matin le SMS de sa petite copine ou de son petit copain. Et ça, ça a des vrais problèmes de performance. Au Canada, ils ont été beaucoup plus malins. C'est-à-dire que pour les ados, ils commencent la classe 1 heure, voire 2 heures plus tard, et les performances sont bien meilleures. Et en France, on n'arrive pas à obtenir ça.
Arnaud Rabat, sur les effets sur la santé des enfants et des adolescents, le manque de sommeil.
Alors oui, ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau n'est pas totalement mature. La fin de la maturation apparaît à 25 ans. Donc on pense, en tout cas nos études ont l'air de le montrer, que la même dette de sommeil va produire des effets beaucoup plus forts sur des cerveaux immatures d'adolescents et de jeunes adultes par rapport à des cerveaux adultes complètement formés. Donc on peut s'attendre à des effets beaucoup plus importants de même dette de sommeil au niveau, sur le plan cérébral et sur le plan des performances.
Oui, par an, instaurer un couvre-feu numérique. Après dîner, on n'a plus ni téléphone, ni tablette, ni écran. C'est défendu, même si ça doit être violent. Il faut instaurer ce couvre-feu.
Je pense qu'on peut aussi l'appliquer pour les adultes.
Certes, mais bon, c'est comme tu viens de le dire, c'est quand même plus grave chez les enfants.
Marc Azergal, cela dit, c'est vrai qu'en consultant un petit peu dans les centres de sommeil, ce que j'ai entendu, parce que moi aussi j'étais sur cette problématique, nous étions avec Claire Chaugnot sur cette problématique des ados et des écrans, c'est que c'est souvent issu d'un comportement familial. C'est-à-dire que c'est la sphère familiale qui est aussi...
Question de Tiffen sur notre page Facebook. Nous sommes de jeunes parents et on se réveille toutes les deux heures, toutes les nuits. On dort malgré tout 6-7 heures par nuit entrecoupées. Est-ce un bon sommeil? Comment ne pas cumuler la fatigue, docteur Patrick Lemoine?
Il suffit que Tiffen se pose la question, est-ce que j'ai la forme dans la journée? Si elle est en forme dans la journée, c'est que tout va bien.
Beaucoup de questions sur le sommeil fractionné, Arnaud Rabat. Est-ce que c'est bon, mauvais pour la santé?
J'ai envie de dire que le sommeil fragmenté, il y a des gens qui se réveillent souvent la nuit, mais qui ont un sommeil récupérateur. En fait, la vraie question à se poser, c'est est-ce que je me sens en pleine forme? Est-ce que mon sommeil a été récupérateur? Est-ce que j'ai été rafraîchi de ma nuit? À partir du moment où on n'a pas ces bénéfices-là, c'est qu'on peut commencer déjà à se poser des questions sur son sommeil.
Bonjour Odile, bienvenue dans l'émission.
Ah bonjour.
D'où appelez-vous Odile?
J'appelle de Sèvres.
Très bonne question sur mon écran, allez-y.
Alors moi j'ai perdu, je crois que je fais partie des gens, hélas, qui sont des grands insomniaques. C'est-à-dire que régulièrement je dors moins de 4 heures par nuit. Je m'endors pas avant 5 heures du matin. Enfin bref, je passe des nuits entières à ne pas dormir. Et en fait, depuis quelque temps, je fais la sieste. Et je me posais la question, enfin, pas très longue, mais enfin des fois il m'arrive une heure et demie de dormir pendant une heure et demie. Et je me demande si ce sommeil-là peut me servir à récupérer, à rééquilibrer ou pas.
Très très bonne question Odile. Théo nous pose la même question. Quels sont les bienfaits potentiels de la sieste pour réparer le sommeil? Patrick Lemoine.
Alors Odile pose, et Théo aussi pose une question en fait assez culturelle. Dans nos climats, on a tendance à dire qu'on dort la nuit et pas le jour, même si on s'autorise des micro-siestes de 10 minutes qui rechargent les batteries. En revanche, si Ali, nous étions en Andalousie, les gens là-bas, même quand ils ont 4-5 ans, à 2h du matin, les gamins de 4 ans jouent sous la pasta mayor, et il n'y a aucun problème, parce qu'en fait, ils dorment de 2h du matin à 7h, et puis ils dorment de 13h à 16h. Donc ils ont leur taf de sommeil, et tout se passe bien. Les Andalous vont aussi bien que nous. Donc la répartition du sommeil peut fonctionner différemment du modèle jour-nuit septentrional.
Arnaud Rabat, sur les bienfaits éventuels de la sieste?
Et la sieste est très bénéfique puisque le manque de sommeil, il n'y a que le sommeil pour le récupérer. Et nous, on a pu montrer qu'on peut même optimiser ce temps de sieste par des techniques de respiration, de relaxation.
Par exemple?
Simplement des techniques basées sur de la sophrologie où la personne s'écoute respirer, essaye de ressentir l'état dans lequel elle est. Ça permet en fait de faire ce qu'on appelle du lâcher-prise et ça permet d'augmenter le temps de sommeil et de l'approfondir.
Merci beaucoup Odile de nous avoir appelé. Marc Azergal, peut-être une précision?
Oui, sur la sieste, je rebondis sur la dimension un peu culturelle qu'évoquait Patrick Lemoine. Ça commence un peu à bouger, même au nord de la Loire. Et on a visité notamment une entreprise, Renault, qui n'est pas la seule, mais qui commence à instaurer un petit peu la sieste en entreprise. Et qui donc instaure un peu un changement de paradigme par rapport à ce regard un petit peu négatif sur la sieste associée à la paresse.
Quelles sont les bonnes pratiques que vous préconisez pour renouer avec le sommeil avant d'aller consulter un médecin, docteur Patrick Lemoine? Quelles sont les bases?
La première base, c'est pas prendre de somnifères, parce que les somnifères, c'est une escroquerie intellectuelle, puisque ça n'apporte pas le sommeil, c'est une anesthésie légère, et quand on est inconscient sous somnifères, on n'a aucun des bénéfices qu'on a énumérés du sommeil.
Pourquoi détestez-vous les somnifères à ce point?
Parce que les gens qui prennent des somnifères vivent moins vieux, parce qu'ils tombent malades, parce qu'ils ont plus de cancers, plus d'infections, qu'ils ont plus d'Alzheimer, enfin bref, il y a toutes les raisons de détester ces produits-là. Alors, faut être raisonnable. Si je vois une grand-mère de 85 ans qui dort depuis 10 ans avec un demi comprimé qu'elle n'augmente pas et qu'elle est heureuse, je vais pas l'embêter, cette grand-mère. Mais si elle s'est cassée le col du fémur à cause de son somnifère, là, je vais être un petit peu plus incisif. Il y a énormément d'inconvénients des somnifères. Je n'en ai pas prescrit depuis 10-15 ans. Je pense que je vois les insomniaques les plus sévères de France et de Navarre.
Quelles sont les bonnes pratiques que vous préconisez?
J'en renouvelle malheureusement chez les gens qui sont trop dépendants en essayant de les réduire, mais c'est pas toujours possible. En revanche...
Qu'est-ce que vous préconisez?
Bon, ce qu'il y a le mieux été démontrées d'un point de vue scientifique, c'est ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales, qui vont depuis la sophrologie jusqu'au lâcher-prise, sans oublier que ce qui empêche les gens de dormir, c'est le désir de dormir, le plus souvent.
C'est-à-dire
ça a été bien montré, on a pris 30 très bons dormeurs, qui ne savaient pas ce que c'était que l'insomnie, on les a mis dans un dortoir, on a mis des petites électrodes, et au moment d'éteindre, on a dit 10 000 euros au premier qui s'endort. On n'a pas un qui a fermé l'œil, parce que l'envie de dormir était telle que ça les a tenus éveillés. Et j'ai très souvent des patients insomniaques qui viennent me voir. Docteur, comme tout à l'heure, ça nous a été dit. Docteur, j'ai pas dormi depuis des années. Oui, mais... Je vais vous enregistrer. Et le lendemain, elle veut me montrer, parce qu'elle pense que je la crois pas. Elle veut me montrer qu'elle dort pas. Et le lendemain matin, elle a dormi.
Arnaud Rabat, quelles sont les bonnes pratiques fondamentales pour essayer de renouer avec le sommeil avant d'aller consulter?
Déjà se connaître. Donc savoir de quelle quantité de sommeil on a besoin et sur quels horaires on dort le mieux, les appliquer et comme on disait tout à l'heure, essayer de sanctuariser le plus possible la chambre à coucher pour que ça soit vraiment l'endroit pour dormir. Et malgré ça, si on a continué à avoir des problèmes, effectivement, on peut s'interroger sur son travail, est-ce que ça peut avoir des incidences sur son sommeil et à ce moment-là, éventuellement se tourner vers des médecins du sommeil pour des problèmes de pathologie du sommeil.
Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on termine et là cette émission avec vous, c'est passé beaucoup trop vite. Dites-nous tout, Daniel.
Alors, moi j'ai téléphoné parce que sur la première partie, je trouvais que c'était quand même très culpabilisant parce que vous n'avez cessé d'énumérer tout ce qui nous arrive si on ne dort pas comme si on en était responsable.
Non, mais Daniel, on n'a jamais dit qu'un dormeur était responsable, un mauvais dormeur était responsable. On a juste énuméré les causes qui peuvent amener un mauvais dormeur vers la mauvaise santé.
Oui, bien entendu, mais ça fait un petit peu peur quand on a tout essayé pendant longtemps. Et moi, j'avais toujours entendu dire, même des médecins, il vaut mieux prendre quelque chose pour dormir que de ne pas dormir parce que les effets sont moins mauvais. Donc moi, je ne prends pas de somnifère, mais je prends quand même un sirop qui fait un peu placebo. Mais j'ai essayé de la relaxation. Plus j'essaye de me détendre, plus mon cerveau fonctionne et moins je m'endors. Voilà. Ou alors je me réveille à 3 heures du matin. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution. Et je pense que ce n'est pas bon pour ma santé peut-être, mais je ne sais pas quoi faire.
Docteur Patrick Kuhmann.
Alors, ce n'est pas culpabilisant, ça peut être effrayant, ça je l'entends bien. Outre les techniques de relaxation, de thérapie, d'hygiène des rides dont j'ai parlé, il y a deux mots à se souvenir, c'est mélatonine. C'est vrai que l'Agence de sécurité alimentaire s'est couverte de ridicule en clouant au pilori de manière totalement impossible la mélatonine, qui est un produit génial, sans contre-indication ou presque, et qui marche très bien. Et deuxièmement, il y a des plantes qui ont un très bon niveau de preuves scientifiques et qu'on doit utiliser.
Par exemple,
valériane, escolcia, passiflore sont... parfaitement bien démontré leur efficacité contre placebo et contre les hypnotiques.
Merci à tous. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Arnaud Rabat, Bien dormir pour les nuls chez First. Docteur Patrick Lemoine, Dormez chez Hachette. Je recommande également Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker aux éditions La Découverte. Merci à tous d'être venus. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie sur le site de Grand Bien vous fasse. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Il s'agissait d'une rediffusion de Grand Bien vous fasse datant du 1er octobre 2018. En raison d'appels à la grève émanant de plusieurs organisations syndicales portant sur le projet de réforme des retraites, nous n'avons pas été en mesure de diffuser le programme initialement prévu. Nous vous prions de nous en excuser.